Bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Quel que soit votre levier payant ou organique, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies payantes appliquées par des experts et des marques e-commerce à succès comme Merci Andy, 900K, Spring et bien d'autres. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, qui est une agence d'acquisition multilevier experte des plateformes Facebook et Google que j'ai fondée pour accompagner les marques jeunes ou établies à accélérer leur croissance. Et pour y arriver, on a développé une approche holistique de la publicité qui combine media buying, testing créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Laure et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Salut Danilo, merci.
Alors mais du coup on va parler de toi et de ta marque Emily Spilo. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de comment tu as démarré, comment tu t'es lancé il y a bientôt 4 ans je pense?
Oui, bien sûr. Donc en fait, j'ai commencé il y a 3 ans justement, pour être exact, donc en mars 2020. Donc en mars 2020, en fait, j'avais déjà anticipé en timing, voilà, j'avais déjà anticipé, fait des shootings photos avec mes copines du basket, etc. J'avais trouvé mes fournisseurs en amont. Je crée mon site Shopify en une semaine. Le site Shopify de l'époque était très très rudimentaire, j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait à la mano, on va dire. Et là donc je lance mes pubs début mars, et ça marche. En lançant mes pubs, en fait je m'étais formée avec une petite formation pour avoir le minimum, et je lance, et puis là première commande, deuxième commande, et en moyenne j'avais 3-4 commandes par jour avec un budget assez réduit. Et sauf que là, Covid, ouais. Plus aucune commande. Et, ouais. Et voilà, j'ai failli tout laisser tomber, en fait. Mais 2 semaines après, je relance les pubs en me disant, les gens, ils sont chez eux. Peut-être qu'il y a un pouvoir d'achat qui est plus grand finalement qu'avant. Ouais. Et là, c'est reparti comme jamais.
C'est un peu tout ce qu'on s'est dit. Mais c'est incroyable déjà comment tu l'expliques. C'est que voilà, tu as préparé un peu en avance ton concept, donc tu nous expliqueras dans 2 minutes qu'est-ce que tu proposes sur Emily Spilo. Tu as créé un site Shopify avec tes propres moyens et directement après, tu as lancé des publicités. Alors qu'il y en a qui vont dire oui, il faut d'abord créer une marque, il faut parler de son projet autour de soi, il faut peut-être, je ne sais pas, on va faire quelques partenariats, etc. Mais toi, tu as directement lancé la publicité. Mais peut-être avant de nous expliquer pourquoi tu as lancé si rapidement en publicité, qu'est-ce que tu proposes avec Emily Spilo et quel a été un peu le déclencheur qui fait que tu as voulu créer cette marque?
Oui, donc Emily Spilo, je l'ai créée parce qu'en fait, il y a une dizaine d'années, j'avais eu une chute de cheveux et je cherchais une solution. J'ai un peu cherché toutes les solutions qui étaient possibles pour améliorer ma texture du cheveu, et j'avais lu les bienfaits de la thé d'oreiller en soie, donc j'en avais acheté une. Je pense à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'acteurs en France, donc je l'avais achetée à l'étranger. Et en fait, j'ai été bluffée dès les premières nuits, vraiment, enfin du confort de dormir sur une thé d'oreiller en soie. Mes cheveux, en effet, il y a eu vraiment des bienfaits sur mes cheveux, la peau tirait moins, donc j'étais vraiment satisfaite de ce produit. Et j'en parlais à toutes mes copines. Je disais, mais vous connaissez pas la thé d'oreiller en soie, c'est vraiment un truc de dingue. Et en fait, 10 ans après, quand vraiment l'envie de l'entrepreneuriat s'est fait ressentir et que j'ai voulu me lancer, je savais que je voulais me lancer en e-commerce. Parce qu'il y avait de la liberté, possibilité de bosser d'un peu n'importe où. C'est vraiment ce qui m'a tirée là-dedans. Et après, je me suis dit, OK, bon, bah, c'est bien beau, mais quel produit? Donc, j'ai eu pas mal de produits. D'ailleurs, j'ai fait des tests. J'ai lancé une société qui faisait des meubles à assembler en kit, etc. Mais bon, je me suis vite rendu compte que la logistique, ça allait vraiment pas être possible de ce côté-là.
Oui.
Et là, en fait, je me suis dit, mais la thé d'oreiller en soi. Ça fait 10 ans que tu en utilises une, tu adores ce produit, et bah teste et apporte un nouveau discours autour de ce produit qui est vraiment le discours autour du bien-être et de la beauté. Et c'est un produit qui peut marcher. Mais j'en avais aucune idée à l'époque, hein. J'étais novice en e-commerce, mais je me suis dit, c'est un produit que t'aimes, donc tu pourras en parler, t'es ta première cliente.
Ouais.
Donc j'ai lancé les pubs avec ce discours-là autour du bien-être et de la beauté. Okay. Et ça a pris.
D'accord, vraiment en monoproduit, enfin, le parcours classique des NVB, c'est un produit que j'utilise déjà. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'acteurs qui le proposent, en tout cas qui sont spécialistes de la thé d'oreiller. Tu y vois les bienfaits et tu as créé un storytelling autour de ce produit, donc notamment sur la partie bien-être et beauté. et directement, tu as trouvé un product market fit assez, de ce que je comprends, assez rapide avec la publicité. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu proposes d'autres choses que l'été d'oreiller sur ton site, sur Emily Spilo ?
Oui, en fait, au démarrage, donc, j'avais juste ma thé confectionnée 100% en Asie. Okay. Mais rapidement, déjà, je me suis dit, bah, la soie, c'est vraiment une matière extraordinaire. Donc, décline-la en plusieurs produits. J'ai la chance que mon fabricant, c'est un acteur historique. Donc, en fait, rapidement, il avait déjà toute une palette de produits un peu sur étagère que je pouvais personnaliser avec ma marque. Donc, j'ai très rapidement lancé le masque de nuit en soie, que je trouvais vraiment complémentaire dans l'univers du bien-être et du sommeil. Donc, le masque de nuit, je l'ai lancé assez vite. Les chouchous, les pyjamas, les kimonos. Donc, en fait, j'ai décliné tout un tas de produits en soie. Okay. Mais toujours avec cette vision autour du bien-être et du sommeil.
D'accord, je comprends, très clair. D'accord, mais on peut maintenant avancer sur du coup le mois de mars. Donc tu disais, tu as lancé les publicités au départ sur Facebook avec quelques connaissances. Mm-hmm. Donc là, de ce que je comprends, tu avais le site web qui était prêt, les pages produits, tu avais peut-être déjà du stock, je pense que c'est le cas.
Alors, en fait, au démarrage, pour tout te dire, j'ai voulu tester le marché. Donc, je n'ai pas fait du stock de suite parce que j'avais aussi très peu de budget de côté. Donc, je me suis vraiment lancée avec quasi zéro. Et en fait, je me suis dit, tu ne vas pas t'acheter 5 000 euros de stock parce que c'était le minimum de commandes.
Ouais.
Donc, fais quelques commandes et si ça prend, en fait, très rapidement, avec le cash que tu vas avoir, tu vas acheter ce stock.
Je comprends, ouais.
Donc, j'ai fait, si on peut dire, j'ai peut-être commencé en direct ce qui s'appelle, je pense, un peu du dropshipping, tu vois. Mais bon,
oui,
moi, j'avais vraiment qualifié comme ça parce que je n'étais jamais partie vraiment dans cette idée-là de faire ça. Mais c'était juste pour tester le marché, mais que les clients te reçoivent quand même un produit. Donc, après, je suivais la livraison, je leur expliquais, etc. Et quand j'ai vu que ça prenait et que j'ai eu assez de cash, j'ai de suite, ça a été mon premier investissement, c'était dans le stock.
D'accord, compris. Ok.
Donc, j'ai de suite acheté le stock. À ce moment-là, on était confinés chez mes parents à Bordeaux.
Oui.
On a pris la chambre de ma sœur, on a mis des vieilles caisses à vin dedans et toute la famille s'est mise à la logistique.
C'est incroyable.
On recevait, je pense, les voisins se demandaient ce qui se passait, les camions UPS débarquaient devant chez nous pour la livraison des thés d'oreiller.
Il y en avait beaucoup, quoi. C'était pas juste une ou deux caisses, c'était
ça allait vite quand même, 2-3 gros cartons qui arrivaient. C'était des demi-palettes quasiment. Donc, ça arrivait. On mettait ça en trier par couleur, par taille. On faisait l'extract Excel avec les logiciels qui permettent de faire la logistique sur Shopify nous-mêmes. Et c'est comme ça que c'est parti.
Ok, très clair. Donc, revenons sur Facebook Ads. Donc, tu as repris les campagnes à partir on va dire, fin mars avec le Covid. Et comment s'est passé à ce niveau-là ? Tu as vu que ça continue à bien prendre. Donc, je suppose que tu as augmenté tes budgets.
Oui. Donc, fin mars, je relance. Je pense que j'étais à peut-être 50 euros par jour.
Okay.
À ce moment-là, je ne savais pas tout ce qui était acquisition, donc audience froide, audience chaude. Donc, moi, je faisais très large. Ça a même très bien marché, mais à ce moment-là, en fait, moi, vu que je n'avais pas d'expérience là-dessus, quand j'avais presque 4 de ROS, je supprimais la pub. Je me suis dit, celle-là, elle ne marche pas, 4 de ROS, c'est pas bon. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'à 4 de ROS, en fait, on est tous ultra contents.
Ah, mais la plupart des marques sont contentes. La plupart.
Voilà.
Surtout, je ne sais pas si tu pourrais nous expliquer un peu comment tu calculais, toi, ton ROS minimum, etc. Parce que c'est toujours intéressant de le savoir.
Oui. Oui, en fait, le ROS minimum, ça, je l'ai calculé assez vite parce que je trouve que c'est un des préceptes. Enfin, quand on se lance en pub, il faut vraiment connaître son ROS mini. Je ne sais plus si c'est la marge là en direct, mais j'ai bien calculé ma marge rapportée donc, au prix TTC. Donc, je connais mon ROS minimum et dès qu'en fait, je m'en rapprochais un peu trop, je me disais, cela, ça ne vaut pas le coup. Je préfère privilégier celles qui font 6 ou 7 parce qu'à ce moment-là, c'était presque ça, quoi.
D'accord, oui.
J'avais rapidement des pubs qui étaient sur ces ROAS-là. C'est ce qui fait que très rapidement, j'ai augmenté. J'étais à 50 euros par jour. Et puis, à un moment donné, je suis montée à 1 000 euros par jour. Mais là, je me suis arrêtée. Je ne sais pas, j'ai eu cette barrière psychologique de me dire, alors que j'avais encore des bons résultats, de me dire, 1 000 euros, là, c'est bien. Après, tu vas trop inonder le marché et les gens, ils vont en avoir marre de toi. Donc, arrête-toi là.
Ouais, je comprends, c'est vraiment intéressant. Donc, tu es passé de 50 à 1 000 euros par jour. Tu as une idée de l'horizon de temps que ça a pris pour arriver à ce niveau-là ?
Ça a pris environ 4 mois, mais c'est surtout ce qui a été un peu un game changer. C'est quand, en fait, j'ai fait appel à un pro sur les publicités.
Ouais.
Et lui, hein, il m'a de suite dit, bon, bah, on va tripler, quadrupler tes budgets. Donc, je lui ai un petit peu laissé la main sur le compte. Et c'est là où vraiment, bah, j'ai dépassé la barrière psychologique, même du 100, 200 euros par jour. Et on a de suite été assez rapidement à 1000 par jour.
Ok, je comprends. D'accord. Et là, ton ROS, il a, je suppose, bien baissé. Il devait être aux alentours du minimum.
Ouais, il s'est rapproché du minimum. Après, on était encore entre 3 et 4.
Ok, d'accord. C'était pour me situer entre 3 et 4, c'était quand même très correct. Okay.
Ouais, okay. C'était correct, ouais. C'est sûr.
Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Et comment s'est passé ces 4 premiers mois du coup en plus de la publicité? Qu'est-ce qui t'occupait en fait à ce moment-là en tant que dirigeant d'un e-commerce en
croissance? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais mes parents qui m'aidaient à la logistique à ce moment-là. Mais ça prenait encore pas mal de temps. Et en fait, j'étais occupée à structurer justement ma boîte en me disant, bon, bah, la situation, que mes parents fassent la logistique. Alors, je pense qu'en termes de coûts, on était sur le meilleur coût que j'ai jamais connu. Hein, voilà.
Oui.
Mais je me suis dit, bien sûr, c'est pas périn. Donc, j'ai cherché des logisticiens. J'en avais trouvé un bien, d'ailleurs, assez rapidement, qui a été un bon propulseur aussi dans mon business. Après, c'était vraiment structuré, trouver le SAV, trouver la bonne personne au SAV, trouver la bonne personne après qui allait s'occuper de mes approvisionnements, parce que c'est très, très chronophage, en fait, bah, de suivre les stocks, d'avoir les bons niveaux de commandes, de suivre les livraisons, parce qu'entre l'Asie et la France, forcément, il peut se passer plein de choses sur les livraisons, donc il faut vraiment piloter ça de très près, structurer l'aspect financier. Voilà, c'était vraiment la mise en place et le développement produit aussi, comment augmenter mon panier moyen, comment faire du cross-sell, du post-sell, de l'up-sell, toutes les techniques aussi qui font qu'on arrive à gagner en marge.
Ok, il était à combien ton panier moyen au départ?
Il était à 60.
Ah, il était déjà à 60 euros, c'était quand même pas mal. Pour un, bon, pour un début avec un monoproduit, c'était sympa.
Ouais. Okay, aujourd'hui... Il était autour de 60 parce que les gens très rapidement en fait ont acheté 2 thés d'oreiller.
Ouais.
Et aujourd'hui, se situe entre 90 et 110.
Ça, c'est très bien, ça. Donc là, évidemment, tu nous expliqueras peut-être le travail que tu as fait pour arriver à ce niveau-là en 3 ans. Tu l'as quasiment doublé. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais je pense qu'à l'époque, tu as l'air de dire au début, le but, c'était vraiment de structurer un maximum la logistique, l'aspect financier. Tu avais délégué tout doucement la partie ads donc sur Facebook. Donc, on parlera aussi de la partie Google, parce que tu m'as dit que tu en fais aussi aujourd'hui. Et toi, de ton côté, est-ce que tu faisais d'autres choses pour développer la marque? C'est-à-dire, il y a un peu le site, l'identité, ce qu'on raconte. Ça, c'est un travail que tu as fait aussi au début.
Oui, c'est un travail que j'avais fait de suite. J'avais fait la page « Qui sommes-nous » dès le démarrage de la marque. Mais par contre, c'est vrai que moi, je ne viens pas d'un milieu marketing. Donc, en fait... j'avais une palette couleurs, mais j'avais pas les messages, j'avais pas. Donc ça, à côté de ça aussi, je me suis entourée pour justement faire cette image de marque, le logo, la palette couleurs. Donc ça a apporté une autre dimension aussi à la marque. Alors qu'avant, mon logo, je l'avais fait sur un Canva tout simple, et c'est vrai que ça se voyait que c'était amateur. Donc ça aussi, ça a été une étape importante où j'ai vraiment professionnalisé l'image de marque. J'ai retravaillé mon discours aussi sur le « qui sommes-nous ?». Donc ça, j'ai pu le faire que dans un moment, on va dire, très inspiré dans le quotidien et dans l'opérationnel. En fait, ce genre de choses ne vient pas. Moi, ça, c'est une de mes techniques que j'utilise où je pars de temps en temps. Vraiment, je coupe tout et je vais dans des choses qui me permettent d'être inspiré sur ce genre de sujet et de sortir, de produire des histoires, l'histoire de la marque aussi et d'où ça vient.
C'est impressionnant, ça aussi. C'est vrai que tu as l'air d'être sur tous les fronts et je trouve que l'aspect marque, on dirait que tu n'avais pas eu forcément beaucoup de temps de le travailler et pourtant tu as eu très vite une bonne traction parce que tu avais, disons, les éléments minimum viables, donc le logo, la page qui sommes-nous, une histoire autour du produit. Je ne sais pas si tu te mettais en avant sur le site en racontant un peu toi comment tu avais découvert la tête d'oreiller.
Très peu, je le fais plus maintenant parce que je pense qu'en fait pour les DNVB c'est essentiel, on n'a pas le pouvoir de traction et la base de données des énormes marques, donc en fait je crois qu'aujourd'hui quand les gens achètent chez des DNVB, ils achètent avant tout des histoires et des personnes derrière ça, quoi, derrière un produit. Donc moi je l'ai toujours dit, j'ai été ma première cliente et c'est pour ça que j'ai lancé mon produit, donc je crois que c'est parler aussi de cette expérience à mes clients, Donc, le qui sommes-nous, je l'ai retravaillé. Au départ, on disait on, enfin, non, je mettais vraiment tout le temps à la troisième personne.
Ouais, ok.
Voilà, je suis passée aussi plus à la première personne. Sur Instagram, il y a maintenant des photos de moi avec mon histoire où je me mets un peu plus en avant.
Super.
Et je pense que c'est important. Ça a été aussi je pense que ça fidélise aussi d'un certain côté la clientèle.
Ouais, et ça, tu l'as fait la première année ou les années suivantes ?
Ça, j'ai commencé vraiment à m'y mettre, on va dire, la deuxième année, à moi plus me mettre en avant, plus raconter mon histoire. Et la première année, non, ça a été plus ce travail de charte graphique et de ton de marque. Et finalement,
d'accord,
qui est venu assez naturellement parce que je voulais utiliser le ton que moi, j'utilise. Voilà, j'ai pas pris une grosse agence de marketing ou quoi que ce soit parce qu'en fait, encore une fois, je trouve que la marque, parfois, c'est aussi la fondatrice, le fondateur qui va apporter le bon message.
Même avis que toi. Je suis pas à l'aise avec ça, en fait, de vraiment déléguer totalement la définition de la marque à une agence, même s'ils disent oui, vous le faites avec nous. On aime bien quand ça vient directement de nous. Donc, c'est important ce côté-là. Mais comme tu dis, il y en a qui viennent du milieu du marketing, qui sont très forts pour ça. On pense à Respire, etc., où ils ont réussi à créer des marques très fortes et des communautés. Puisque j'en parle, la communauté, est-ce que c'est un truc sur lequel tu as misé ces derniers temps? Puisqu'au début, tu as démarré sur la publicité, donc je pense qu'il n'y avait pas de communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un truc sur lequel tu mises plus?
Je mise plus totalement. Enfin, en fait, la communauté aujourd'hui, je le dis souvent, community is key. Et c'est, j'ai une belle base email aujourd'hui, justement, qui a été possible aussi grâce à la publicité Facebook, à tout ce que j'ai fait en publicité. J'ai pu construire cette base de clients. Et aujourd'hui, je l'utilise via les newsletters, via tout ce qui est le tunnel d'acquisition aussi par email. Là, on met en place un programme de fidélité. Je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts d'acquisition pour s'en sortir, je crois qu'il faut énormément s'appuyer sur la communauté. Ça, c'est une des clés, en fait, pour les DNVB.
Oui, ok, c'est clair. Et pour revenir sur...
quelque chose qui est très bien, excuse-moi, je te coupe, mais parce que je me disais sur le fait que je n'ai pas pris d'agence de marketing, je pense aussi qu'il y a quelque chose, quand on entreprend, qui est pas mal, en fait, c'est de ne pas avoir beaucoup de budget. Et là, au moins, bah, ça fait poser vraiment les bonnes questions et là où on met le budget. Et
ben,
du fait que, voilà.
J'allais dire, toi, tu as la particularité de t'être lancé avec très peu de fonds. Il y en a, ils injectent directement 10, 15, 20 000 euros directement de leur poche. En tout cas, c'est ce que certains commerçants m'ont dit. D'autres qui font une levée de fonds. Toi, tu n'as pas fait tout ça. En fait, tu as attendu. Et ce que moi, ce que j'aurais fait aussi si j'avais été à ta place, c'était attendu d'avoir un truc qui marche en ayant des commandes avant de réinvestir l'argent qui a été généré pour acheter du stock. C'est quoi pour toi les bénéfices de s'autofinancer VS se faire financer? Est-ce que tu vois, est-ce que si aujourd'hui tu devais refaire les choses, est-ce que tu garderais cette méthode-là ou tu préférerais te financer, sachant que tu sais que maintenant le produit marche?
Je pense que je partirais sur la même base. Après, je sais que ça ne serait pas, donc c'est-à-dire en m'autofinançant. Je n'irai pas chercher des financements extérieurs de suite. Ça, c'est plus dans un deuxième temps. Voilà, et c'est très bien d'aller après s'appuyer sur des financiers. Mais en fait, de toute façon, je ne voulais même pas me lancer là-dedans parce que de base, je partais un peu perdante sur ce sujet en me disant « Personne ne va me prêter, je n'ai pas d'expérience en entrepreneuriat, je n'ai pas vraiment de sécurité derrière à leur proposer. Donc en fait, tu dois y aller solo. » Et je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été la même chose. Je serais partie comme ça, sauf qu'à la différence, je n'aurais pas pu bénéficier de ces coûts d'acquisition qui étaient moindres lors de mon lancement, qui m'ont permis de vraiment faire décoller la marque. Aujourd'hui, enfin pour les DNVB qui se lancent aujourd'hui, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué, du moins sur l'acquisition. Il faut utiliser pas mal de leviers, être vraiment sur tous les fronts. Là où moi, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de Meta à ce moment-là.
C'est sûr. Ouais, non, ça, sur le coup, t'étais très bon timing, ça coûtait pas encore trop cher et surtout, la concurrence, elle était plus trop élevée parce que c'était le Covid. Et en plus, ça, l'intention d'achat était élevée parce que les gens, ils étaient chez eux.
Ouais.
Après, j'ai une belle histoire que j'ai encore en tête de 900Care que tu dois peut-être connaître. Ouais. Eux, ils se sont lancés fin 2020 avec une campagne Ulule qui a été virale. Et en fait, après, ils ont pu financer leurs ads de cette façon-là, quoi. Enfin, financer leur stock et leurs ads de cette façon-là. Et ils ne sont plus jamais arrêtés depuis, quoi.
Non, mais je pense que typiquement, c'est comme ça, les crowdfunding, c'est un excellent moyen aujourd'hui de lancer des marques.
Exactement, crowdfunding ou par toi-même aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... le financement, ce n'est pas forcément obligatoire pour lancer une marque e-commerce, au contraire.
Complètement,
Donc, tu disais que tu as bien profité de Meta en 2020. Et Google, est-ce que tu l'as utilisé dès le départ?
Et Google, je l'ai utilisé, mais tardivement. Alors ça, c'est un de mes regrets que j'aurais fait différemment, mais bon, voilà, j'avais essayé, j'avais ouvert Meta, pardon, j'avais ouvert Google, tu vois, j'avais ouvert Google
Ouais.
Ads et je n'ai rien compris à leur interface.
Ouais.
J'ai refermé, je me suis dit, bon, tu restes sur Meta pour le moment. Mais plus tard, voilà, au bout de justement quand je me suis professionnalisée, donc on va dire, donc la marque, je l'ai lancée en mars 2020. Je pense que Google est arrivé vers septembre-octobre 2020.
OK.
Et là, j'ai eu aussi des bons résultats. Donc finalement, aujourd'hui, et ça a fait un peu un vase communicant progressivement, c'est Google qui a pris le dessus, notamment avec l'augmentation des coûts d'acquise. C'est plus sur Google aujourd'hui que je mets le budget que sur Meta.
Ouais.
Du moins en ce moment. Mais voilà, ça s'est presque inversé. Et bon, bah, si j'avais lancé Google avant, je pense que ça aurait été bénéfique pour la marque et ça aurait très bien marché.
Ouais, d'accord. OK, d'accord. Et qu'est-ce qui marche sur Google là, actuellement?
Alors, bah, ça, c'est ma freelance qui pourrait t'en parler mieux que moi parce que vraiment, Google, c'est quelque chose que j'ai mis de côté, que j'ai décidé de déléguer et je regarde juste les
C'est marrant. OK.
KPIs. Mais ce qui marche, enfin, c'est le nouveau Google
Performance Max.
Perf Max, quoi, et voilà.
Ok, d'accord, c'est comme. Enfin, je pose la question parce que j'ai l'impression que c'est ce que j'entends partout maintenant, c'est Performance Max
Oui.
qui met les produits dans Shopping, dans Search, un peu partout et qui gère tout ça à ta place. Ok.
Oui.
D'accord. Et sur Meta, c'est quoi un peu les apprentissages que tu as eu les premiers mois?
Alors, sur Meta, premier mois, enfin voilà, je faisais cold. Après, j'ai commencé à intégrer donc le
Retargeting.
retargeting, video view, faire vraiment même le cold, warm, hot. Donc voilà, je le faisais un peu moi-même au départ. Après, donc j'ai pris un freelance. Ce freelance, je pense, enfin, c'était pas en adéquation avec la marque, ça n'allait pas. Donc on a vite pris des chemins différents. Et après, je suis passée en agence.
Ouais.
Enfin, j'ai testé l'agence là en fin d'année dernière. Et donc, bah, je crois qu'ils ont fait leur max, mais le contexte fait que ça ne décollait pas plus finalement que comme moi je m'en occupais.
OK.
Donc, j'ai décidé temporairement là de reprendre ça. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui fais mes campagnes sur Meta. Et pour en gros tout simplifier, parce que faire la créa, c'est ce qui prend vraiment, du moins de mon côté, le plus de temps. Donc, ce que je fais, en fait, j'ai plus qu'une campagne Advantage Plus, en gros.
Incroyable
rigole
ça.
pas.
Ah, c'est incroyable.
Non, mais voilà. Enfin, non, j'avais encore du cold et du. Mais en fait, ça dépend. Quand je le fais plus à la saisonnalité aussi, voilà, Black Friday, forcément, les ROAS remontent. Donc là, je travaille plus les différents funnels.
Ouais.
Fête des mères, pareil. Mais sinon, quand je laisse plus qu'un filet sur Meta, je peux pas me prendre la tête à me dire il faut qu'il y ait 6 visuels différents toutes les 2 semaines. Enfin bon, bah, t'imagines avec tout ce qu'il faut gérer autour d'une marque, en
Ouais.
fait, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que je compte le redéléguer à nouveau à un moment. Mais là, aujourd'hui, temporairement, j'avais décidé de le reprendre,
Ouais.
aussi pour des raisons de marge et financière, hein, clairement.
Ouais.
Donc voilà.
Ouais, c'est une question que je vais te poser juste après. C'est ce qui avait vraiment changé entre le début et maintenant. Et je pense que tu m'avais fait comprendre qu'il y avait plus de charges et que les choses avaient changé pour la boîte avec le contexte économique. Mais pour Meta, bah, écoute, avoir une campagne Advantage Plus, non, c'est une bonne chose. En plus de ça, tu peux faire de l'acquisition et du retargeting avec. Je sais pas si tu es au courant,
Ouais. Ouais,
que
j'ai
ça fait
capé
les
à
deux.
30% max sur
Ah
retargeting.
bah voilà, donc ça fait tout pour toi et t'as une seule campagne. Donc là encore, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de choses que t'as simplifié, quoi. Parce qu'en fait, comme de ce que j'ai compris, tu gères beaucoup de choses seul. Après, tu me diras si t'as d'autres personnes, d'autres freelances, d'autres personnes qui t'accompagnent. Bah en fait,
Ouais.
tu simplifies au maximum les choses et je suppose que ton compte Meta, tu le gères en peut-être 2-3 heures par semaine.
C'est ça. Et
Ouais.
encore.
Et encore, ouais.
Et encore. Mais parfois à mon détriment. Hein. Je ne dis pas franchement que c'est la solution parce que parfois je regarde et je me dis, ah mince, ça fait une semaine que ça tourne à 1,5 de ROAS. Donc clairement, j'ai perdu. Je me réactive et je redemande à mes équipes de refaire des nouveaux visuels. Je les relance sur les campagnes. Mais voilà, je pense qu'il faut au moins avoir un système de remontée d'indicateurs que quelqu'un de mes équipes, justement, là je suis en train de former quelqu'un de mes équipes pour qu'au moins il puisse me remonter les indicateurs tous les 2-3 jours pour que
Ok.
j'ai pas besoin d'aller dans Meta les regarder, même si c'est pas grand-chose, mais Ouais. J'ai 10 000 onglets ouverts en fait sur mon PC, ouais. Et voilà, j'ai mon esprit qui ne se câble pas sur Meta, et du coup je vais pas regarder les résultats.
Les campagnes, ouais. Et comment t'es structuré aujourd'hui? Tu parlais de tes équipes, tu travailles avec qui actuellement pour ta marque?
Alors là, on est environ 8. Je dis environ parce qu'il y a aussi des alternantes et des stagiaires, ouais. Donc parfois ça évolue. Mais aujourd'hui, j'ai 2 personnes, donc 2 freelances à Madagascar qui, okay, m'accompagnent depuis le démarrage.
Okay.
Donc où j'avais eu la chance de rencontrer quelqu'un dans un réseau qui m'avait dit, ah, j'ai une agence à Mada avec des personnes qualifiées. Si tu veux te renseigner, en fait, go. Donc, je l'avais contacté et maintenant, c'est toujours les deux mêmes depuis 3 ans, Aurélie et Véro, et qui sont sur l'approvisionnement, le développement produit et le SAV.
D'accord. Okay.
Voilà. Donc, ça, c'est déjà géré. C'est quelque chose qui tourne. C'est super. Et après, j'ai une freelance qui me fait mes newsletters. Une free qui fait justement Google Ads. J'ai une personne qui s'occupe de la partie B2B.
Okay.
Voilà, pas full-time, mais qui est dessus. Et après, j'ai 2 alternantes qui viennent m'aider sur la mise à jour du site, le back-office du site et aussi sur l'Instagram.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.